obéissance de la loi de Moïse et aux traditions orales. Ils sont très respectés par le peuple. Ils avaient une très grande influence spirituelle. On parle de Nicodème comme un chef, parce que c'est des chefs spirituels. Et aussi au niveau social, ils ont un zèle pour la loi, mais à cause de ça, ils se concentraient trop sur la religion extérieure plus que la transformation intérieure. Et donc Nicodème est représentant de cela. Et par incidence, on peut dire aussi qu'il était quelque part spirituellement mort, n'est-ce pas ? Parce qu'en tant que chef d'Israël, enfin chef religieux en Israël, il vient quand même rencontrer Jésus pour lui poser des questions qu'il était censé connaître en tant que religieux. Et puis des fois, en tant que chrétien, du moins quand on s'appelle cela, peut-être à l'image un peu de ces Nicodèmes, on a des traditions. Parmi nous, on a des personnes qui ont grandi, je ne sais pas, dans l'Église, qu'elles soient catholiques, protestantes, orthodoxes, évangéliques, peu importe. Mais on se considère de tradition, n'est-ce pas, comme le Canadien, la grande famille chrétienne, qui l'a éduqué dans des valeurs, de la foi, etc. Il y en a, on a développé des connaissances, on s'est renseigné sur la foi, sur la philosophie chrétienne. Il y en a qui sont respectés aussi pour ça. Certains ont fait des expériences avec la foi, sont touchés par qui est Jésus, etc. D'autres ne sont pas du tout chrétiens, ont une critique profonde de la foi, n'aiment pas forcément en parler ou juste un désintérêt par rapport à ça. Mais malgré ça, Nicodème, avec son statut de chef religieux, chef des Juifs, il fait preuve d'humilité. Il reconnaît qu'en Jésus, au-delà de son statut humain, est un enseignant, qu'il a fait des miracles et qu'on ne peut pas contester ça. Donc par honnêteté de ce qu'il a vu, de ce dont il a été témoin, il reconnaît qu'en Jésus, il y a une réponse. Et ce qui est particulier, c'est qu'on voit qu'il va rencontrer Jésus de nuit, n'est-ce pas ? Il ne vient pas la journée. Et pourquoi ? Il a la pression. C'est normal. Les pharisiens en voulaient à Jésus. Ça les dérangeait que de voir qu'un homme venu de Nazareth imposait les mains aux malades, qu'ils étaient guéris, qui enseignait avec autorité, avec assurance, avec vérité. Et eux, depuis un peu plus de 200 ans, n'arrivaient peut-être pas à opérer dans cette dimension. Mais Nicodème avait perçu quelque chose. Et pour éviter la pression de ses pères, la peur des hommes, il vient dans l'intimité rencontrer Jésus. Donc Nicodème, pharisien, on pourrait parler de nous, de certains d'entre nous, comme des chrétiens aussi de tradition, d'héritage, mais pas forcément de conviction. Alors si on va au niveau de la conviction, on va un peu plus haut, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien de conviction ? Est-ce que tu peux mettre le verset 2, s'il te plaît, donc la première slide ? Quand Nicodème parle, verset 2, il dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec nous. » Donc malgré son héritage, son statut important, ses connaissances, tout ce qui va avec, il l'appelle maître. Donc cet homme qui voit de Nazareth, qui a priori ne vient de nulle part, qui n'a pas le même héritage a priori que lui, en l'appelant maître, il reconnaît son autorité. Donc il développe une conviction que Jésus a le droit d'être maître, n'est-ce pas ? Son humilité lui fait reconnaître qu'en Jésus, justement, il peut retrouver cette réponse. La réponse qu'il essaye de savoir. Et l'inverse serait malhonnête. Mais ce n'est pas suffisant. Quand quelqu'un fait des miracles ou opère dans des dons de puissance, est-ce que c'est forcément quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu ? Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. Hein ? Des personnes qui opèrent dans des milieux occultes, des voyants, toute forme de style de magie, où des gens font ce qu'on pourrait appeler des miracles. Donc avoir la conviction parce qu'il a fait des miracles, etc., que Dieu est avec lui, c'est peut-être pas suffisant au final. Du coup, dans leur discours, on arrive à la nouvelle naissance. Et là, on va parler du chrétien qui est né de nouveau. Et en parlant de cela, Jésus le présente à un nouveau paradigme. La nouvelle naissance. Et la naissance humaine, chacun d'entre nous, on est né, des entrailles d'une femme, n'est-ce pas ? C'est commun à tous. On a aussi une naissance spirituelle. Et Serge l'a bien dit, nous sommes des pécheurs. Donc la marque spirituelle qui nous détermine en tant que, enfin tous spirituellement, c'est que nous sommes tous nés pécheurs. Moi j'ai 4 neveux et une nièce. Le l'aîné a presque 4 ans. Quand ils sont tous ensemble, c'est sport. C'est très très sport. Puis on voit que dès leur plus jeune âge, Les enfants se bagarrent, se disputent, se mordent. Et souvent on dit c'est chaud. Mais c'est chaud parce que c'est des enfants. Et le même comportement chez les adultes, c'est pas terrible. Donc même ce qu'on se considère comme chaud chez les enfants sont des marques aussi de péché, qui marquent l'humanité, n'est-ce pas ? Le fait de mentir, de cacher sa faute, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu as mangé ? De rien, alors qu'il y a du chocolat tout autour de la bouche. Le mensonge, c'est pas très grave. En tout cas pour l'instant. Mais c'est la marque que l'être humain naît justement pécheur. Et donc quand on parle de naissance nouvelle, d'une nouvelle naissance, cette naissance spirituelle, bah, c'est cette nouvelle naissance qu'on obtient au travers de Christ, n'est-ce pas ? Et qui est la condition pour avoir accès au royaume de Dieu. Donc de prendre part à ses promesses et aussi d'aller justement vers la vie éternelle. Et Jésus va plus loin. Il détaille en deux dimensions. Il dit qu'il faut naître d'eau et naître d'esprit. Enfin, ça prend une tournure, on peut dire, un peu mystique. On se dit, mais qu'est-ce que, de quoi il parle ? Donc naître d'eau, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est ce qu'ont vécu quelque part les trois hommes ce matin. En tout cas, c'est l'expression de ce qu'ils ont vécu, qui s'exprime au travers du baptême. Le fait de se reconnaître pécheur, d'arriver à une certaine repentance et de se laisser purifier par l'œuvre de la croix, de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, n'est-ce pas ? Un autre passage qui évoque cette dimension de naître d'eau, c'est l'histoire de Noé. Dieu décide, c'est marqué dans son traduction, en fait, d'exterminer toute la terre, n'est-ce pas ? Mais le mot exact qu'on utilise pour exterminer, c'est en fait de purifier, de laver. Et il le fait par les eaux. Donc il abat un jugement sur la terre afin de la nettoyer de tout le péché. Et par l'arc-en-ciel qui se manifeste, il fait cette promesse que plus jamais il abattrait un jugement. Et le jugement qui devait peser sur nous, c'est Jésus-Christ qui l'a pris. Donc par le baptême, Lucas, tu es rentré dans l'eau, tu as renoncé à ton vieil homme, tu t'es identifié à l'œuvre de la croix, et en ressortant, tu vis cette nouvelle naissance. Naître d'eau.
Alléluia.
Naître d'esprit. Moi, aujourd'hui, je décide de donner ma vie à Christ, n'est-ce pas ? Donc, je vais pas vivre de changement physique, j'aurai le même physique, pas mal, pour les gosses, n'est-ce pas ? Mais l'Esprit de Dieu va habiter en moi, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qui fait l'Esprit de Dieu ? Déjà, il nous amène dans une communion avec Dieu. Alors qu'à cause de la rentrée du péché dans le monde, nous avons été séparés de Dieu, par l'Esprit en nous, cette communion, cette relation est restaurée. Elle est restaurée. Tu commences à être habité par les désirs de Dieu, tu aimes ce qu'il aime, tu détestes ce qu'il déteste, tu veux faire sa volonté. Dieu travaille ses fruits en toi, son caractère, la patience, la bonté, la bienveillance, n'est-ce pas ? Il y a encore plein de choses, et aussi ses dons. Serge l'a dit, nous sommes appelés à être des témoins. Et donc pour être des témoins, des fois aussi les dons servent à cela. Cultive cela. Donc en résumé, ça veut dire que je me demandais si ça valait la peine de prêcher, vu tout ce qu'ils ont dit. Mais tu l'as très bien donné, Lucas, dans 2 Corinthiens 5, les versets 17 et un peu 18, il est dit, je le cite simplement, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Donc l'œuvre de la croix, c'est une œuvre de réconciliation. Quiconque vient à Christ est réconcilié avec Dieu. Tu vis une vie nouvelle. Il n'y a aucune personne ici qui a donné sa vie à Christ qui est pareille qu'avant. Même les gens autour de toi se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quelque chose a changé. Parce que tu es mort à ta vie ancienne et remis à la vie en Christ. Est-ce que tu as pu te venir avant qu'on prenne un bref temps de louange. Donc cette histoire avec Nicodème nous montre déjà que la nouvelle naissance ne vient pas du fait que tu t'appelles chrétien ou chrétienne, ou que ta famille ait été chrétien ou chrétienne. Ça peut aider, ça peut nourrir le fait d'avoir un problème de famille chrétienne, mais aussi ça a été le cas, n'est-ce pas ? Donc mes parents étaient chrétiens, on est à l'église, etc. Mais comme il a été dit aussi, c'est une décision personnelle de reconnaître qu'on vit loin de Dieu et qu'on désire en fait être réconcilié avec lui. Et ce qui est fou, c'est qu'au verset 10, est-ce que tu peux avancer s'il te plaît, Pavel ? Jésus avait répondu à Nicodème, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. Donc peu importe le bagage intellectuel, le bagage sociologique, quelle que soit la matière, cela ne comble en rien le fait de pouvoir être sauvé. Il n'y a rien que tu peux savoir qui peut t'amener au salut. Même le fait de vivre une vie morale, des fois on dit, mais si je fais le bien, j'irai au paradis. Non, ce n'est pas un mérite d'être sauvé. C'est vraiment l'amour de Dieu, recevoir sa grâce. Il n'y a personne ici qui peut faire suffisamment de choses, suffisamment d'efforts pour mériter le salut. C'est le don gratuit de Dieu.
Amen.
Amen. Donc ce salut consiste en croire en Jésus-Christ qui est le seul chemin vers le salut. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de choses particulièrement à faire. Tu reçois seulement et tu le suis. Et c'est la meilleure vie que tu puisses vivre. Moi, des fois, avec des amis, je me demandais, mais si je n'ai pas donné ma vie à Christ, où j'en serais aujourd'hui? Et sans se consulter, on a tous répondu, on croit qu'on serait mort. Probablement. Hein? Et ce n'est pas possible de penser autrement. N'est-ce pas? Mais Dieu est bon. Dans ta situation, il sait comment te trouver, comment te toucher, comment te ramener à lui. Un des versets que les chrétiens aiment beaucoup et qui résume bien voilà ce que le Seigneur a fait, c'est dans le même chapitre, je vais mettre la dernière slide de Pavel, de Jean 3,16, qui dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde, dont c'est une marque d'amour le salut, qu'il a donné son Fils unique, son propre Fils, a été cloué à la croix pour nous, afin que quiconque croit en lui. » Donc c'est quiconque, c'est pas que des religieux, c'est pas que des intellectuels, c'est pas que des gens de basse classe, de haute classe, peu importe, c'est quiconque croit en lui, ne périsse point, dont tu n'iras pas à la mort, mais que tu as la vie éternelle.
Amen.
Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, ensemble? Du coup, ma question ce matin, pour toi, si tu écoutes, c'est de savoir, es-tu né de nouveau? Ah, c'est la question à se poser. Amen. Gloire à Dieu. Es-tu né de nouveau? Normalement, si tu es né de nouveau, tu le sais. C'est une évidence. Si tu ne l'es pas, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas grave. C'est simplement une invitation. Que tu sois chrétien de tradition, tu connais l'église, oui, c'est ma première, deuxième communion, c'est pas ça qui sauve. C'est pas ça qui sauve. De conviction, oui, je crois que Jésus existait, je crois qu'il était bon, qu'il avait des bonnes valeurs, c'est pas ça qui sauve. Pour être né de nouveau, il faut être né d'eau et d'esprit. De passer par la repentance, s'identifier à Christ, reconnaître son état et recevoir son esprit. Amen.
Amen.
Alors, je vous invite juste à fermer les yeux. C'est rien de... Il n'y a pas de magie ici. Okay? Il n'y a pas de magie, c'est juste... Quand on parlait de Nicodème, qu'il est allé voir Jésus de nuit. Donc, au-delà de la pression qu'il pouvait avoir, il est quand même allé voir Jésus à un temps où il pouvait être intime avec lui. Donc, le fait de fermer ces yeux, c'est pas pour que tu te laisses intimider par ce qui se passe autour, des regards qu'il pourrait avoir sur toi, mais simplement de te concentrer sur ton cœur et sur Jésus. Et maintenant, si tu sens un appel dans ton cœur, de vraiment donner ta vie à Christ, de reconnaître l'œuvre qu'il a fait à la croix, qu'il est mort et ressuscité afin que tu aies la vie et la vie éternelle. Je t'invite simplement à lever la main. À lever la main. Gardez la main levée, ceux qui veulent faire ce pas, juste que je vois, n'est-ce pas? Les autres, gardez les yeux fermés. Respectez simplement ceux qui font ce pas-là. Alléluia. Alors que tu décides aujourd'hui de donner ta vie à Christ, je vais t'inviter juste à faire cette prière avec moi, puis chacun, on peut aussi les encourager là-dedans. Amen.
Amen.
Vous pouvez répéter après moi, Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus.
Je reconnais que j'ai vécu loin de toi.
Mais aujourd'hui,
le salut rentre dans ma maison.
Je reconnais
que tu es mort et ressuscité afin que j'aie la vie. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, remplis-moi de ta présence. Conduis-moi chaque jour de ma vie, afin que je puisse marcher comme toi, aimer comme toi, te ressembler en tout point. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Qui ont levé la main, ne partez pas trop vite à la fin du culte. Pas, ça arrive, on n'arrive pas à vous réceptionner. Donc venez simplement devant, on prendra un temps ensemble, comment aller plus loin. On va juste prendre ce temps, et peut-être certains pour nous, les temps de baptême sont aussi un temps, on se souvient d'où on vient. Des fois, on est tellement chrétien depuis longtemps qu'on oublie un peu d'où le Seigneur nous a pris. Et donc on va prendre ce chant, et prenez-le vraiment comme un renouvellement de votre alliance avec Jésus-Christ. Comme un couple, des fois, chaque 10 ans, 5 ans, 15 ans, ils renouvellent leurs vœux, vivez-le de la même manière. C'est une alliance, une appartenance, un amour qui se renouvelle chaque jour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.